on observe une demande de plus en plus importante d'interdisciplinarité, donc dans les projets de recherche et sur les fiches de poste des métiers en lien avec l'environnement. Et pourtant, on voit que certains étudiants donc soutiennent la présence d'un décalage entre les attentes du monde professionnel et la réalité de l'enseignement universitaire. Donc les métiers en lien avec l'environnement nécessitent-ils finalement le passage par des formations interdisciplinaires? Et si oui, pourquoi? Donc certaines formations qui présentent une maquette pluridisciplinaire n'offrent parfois qu'une juxtaposition d'enseignements qui ne se croisent jamais entre eux, ce qui pose la question de l'effectivité des pratiques concrètes de coopération disciplinaire entre les enseignants-chercheurs des différentes disciplines. Par ailleurs, on peut s'interroger sur le sens de ces formations quand elles s'insèrent dans une injonction plus généralisée à l'interdisciplinarité et qu'elles engagent des chercheurs ne possédant pas forcément les mêmes normes professionnelles. Ainsi, au cours de cette table ronde, nous tenterons de recontextualiser la pratique de l'enseignement interdisciplinaire autour des questions environnementales et d'interroger ses finalités, mais aussi ses effets, tant sur les étudiants que sur les chercheurs qui s'investissent dans ces formations. Pour ce faire, donc nous aurons la chance d'écouter 4 invités qui ont toutes une riche expérience de l'enseignement interdisciplinaire et qui pourront témoigner de certaines avancées, mais aussi de certaines difficultés, voire d'échecs rencontrés durant leur parcours. Donc nous recevons aujourd'hui Julie Cardy, voilà, qui est là. Donc, qui est docteur en urbanisme, qui est aussi attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'Institut de management public et de gouvernance territoriale et chercheur associé au LPED, donc qui a pratiqué l'enseignement depuis sa thèse et encore aujourd'hui. Donc elle a enseigné notamment à Aix-Marseille Université en licence 3 sur les thématiques sociologie des risques et des enjeux environnementaux et sanitaires. Ensuite, elle a enseigné dans le Master 1 sur le cours Sociologie des interactions nature-société en ville et également en licence à Paris Tech, en licence 3, sur des questions d'hydrologie urbaine. Elle enseigne également cette année la culture générale pour les licences 1 et les méthodes d'expression écrite et orale pour les licences 3 et les Master 2 développement durable et gouvernance territoriale de projets en Méditerranée et à l'international à l'Institut de management public et de gouvernance territoriale. Ensuite, nous avons également l'honneur d'avoir avec nous Carole Barthélémy, du coup que vous connaissez un peu plus, donc qui est maîtresse de conférence en sociologie, spécialisée en sociologie de l'environnement. Donc ses travaux de recherche portent sur les interactions entre nature et société, et ont toujours été réalisés dans des laboratoires de recherche où cohabitent des chercheurs en sciences de la nature et en sciences sociales. Ses recherches portent sur l'analyse des politiques publiques sur le fleuve du Rhône et la nature en ville, ainsi que leurs interactions avec les usagers de ces milieux naturels. Et en termes d'enseignement, donc Carole enseigne essentiellement à Aix-Marseille Université pour des étudiants qui sont dans le secteur sciences. Et pour elle, il s'agit de former des futurs sociologues et aussi d'enseigner les apports d'une pensée scientifique complexe et intégrée qui est à même de répondre aux enjeux environnementaux. Donc nous recevons également Valérie Berthaudière-Montès, donc qui est maîtresse de conférence maître de conférence en écologie végétale à Aix-Marseille Université et au LPED aussi. Donc par des approches interdisciplinaires de la dynamique de la biodiversité dans les territoires en mutation, ces travaux s'inscrivent dans l'étude des interactions entre les populations humaines et leur environnement. Et donc les principaux thèmes scientifiques abordés sont l'identification des processus et du rôle des différents facteurs qui régissent la composition, la distribution et la dynamique des espèces végétales en milieu urbanisé, ainsi que la relation entre les pratiques locales de gestion des ressources végétales et la dynamique des écosystèmes. Et enfin, nous recevons Marie Jacquet, qui est... maîtresse de conférence en sociologie à Aix-Marseille Université, donc qui est également rattachée au LPED. Et ses travaux de recherche s'intéressent aux mobilisations environnementales, donc notamment les ZAD, les Jeunes pour le Climat, les procès climatiques, à la diffusion des savoirs dans les pratiques d'éducation à l'environnement et aux transformations des pratiques agricoles, ainsi qu'aux nouvelles dynamiques agri au rural. Donc ses travaux de recherche sont toujours inscrits institutionnellement depuis sa thèse au sein de laboratoires interdisciplinaires et ont donné lieu à des pratiques de recherche interdisciplinaires autour de plusieurs objets, donc notamment la gestion collective de l'eau en région méditerranéenne et les transformations dans les modes de gestion des espaces forestiers méditerranéens. Et en termes d'enseignement, Marie intervient donc dans des formations pluri- et interdisciplinaires, donc au sein de l'UFR Sciences, et également dans le département de sociologie. Donc le principe de cette table ronde, donc on a décliné cette table ronde autour de trois questions. Donc on va poser nos questions et il y aura, c'est mieux pour commencer, et donc il y aura une réponse de plusieurs personnes de la table ronde. Ensuite on ouvrira cette question donc à la salle, sachant qu'on va essayer de tenir un timing d'à peu près 20-25 minutes par question. Donc la première idée, donc nous avons récemment appris que les enseignants-chercheurs du LPED avaient été impliqués dès les années 90 à Marseille. On n'a pas dit ça, on a dit années 90. Dans la création et l'organisation du premier institut universitaire professionnalisé dans le domaine de l'environnement, qui est l'UP Environnement, Technologie et Société. Et dans ce cadre, peut-être pourriez-vous, à partir de votre expérience au LPED, nous exposer l'historique et les transformations des pratiques interdisciplinaires autour des questions environnementales, et revenir un petit peu sur ce que vos expériences vous ont apprises, ce qu'elles ont changé pour vous, et notamment dans vos relations entre les chercheurs issus de différentes disciplines et dans vos enseignements.
Tu commences ou tu...
Oui, mais comme ça, je fais le lien avec la présentation d'Héloïse, parce que je pense que l'aspect générationnel est présent. Et oui, c'est vrai qu'en préparant cette table ronde avec Amiaël, Lucie et Lorraine, elles se sont rendues compte qu'en fait, ça faisait très longtemps qu'il existait des recherches interdisciplinaires et des enseignements interdisciplinaires. Et par rapport à la question de l'histoire, ce qui me semble important à souligner, c'est le contexte dans lequel cette IUP est née. Et je dirais, on peut, peut-être qu'il y aura aussi d'autres témoignages dans la salle par rapport à cette histoire, mais on peut aussi faire un parallèle avec ce qui s'est passé dans le milieu de la recherche. C'est-à-dire que ce sont des expériences qui sont nées dans les marges de l'institution, autour d'un objet qui était complètement émergent, c'est-à-dire qui professionnellement n'existait pas. Quand l'IUP est né, ça a été un projet qui a été porté sans avoir l'idée de débouchés professionnels concrets. En revanche, il y avait un enjeu émergent dans la société qui était cet enjeu environnemental. Et donc, l'objectif de l'IUP, c'était de former, non pas à des spécialités disciplinaires, non pas former des spécialistes, mais justement former des étudiants, puis des jeunes salariés, qui soient capables de penser globalement une question et d'y apporter une réponse complexe. Et de ce fait, ça a attiré des gens qui... d'une part, avait des recherches déjà engagées sur les questions d'environnement, mais surtout qu'il y avait cette envie de travailler en dehors des frontières disciplinaires, justement, et de dépasser certaines frontières disciplinaires. Et donc, je dirais, et c'était un des éléments qu'on a eu aussi dans la discussion, que moi, cette expérience qu'elle m'a appris, c'est que dans les recherches interdisciplinaires, il y a deux facteurs. Il y a un facteur que ça va représenter d'abord un engagement, parce que, non pas que ça soit difficile, alors là, moi je ne suis pas du tout dans le discours de la difficulté et de la souffrance, mais non pas que ce soit difficile de faire de l'interdisciplinaire, enfin de faire ces projets-là, mais un engagement au sens où, on imagine que pour transformer un certain type de pratique d'enseignement, il faut le faire en dehors des cadres dans lesquels on se trouve, en dehors des cadres établis, et donc porter ça de façon engagée. Et puis, le deuxième élément que ça nécessite, je dirais, c'est aussi... j'ai perdu le fil de ma pensée, c'est pas grave. Donc, il y a la dimension de l'engagement, et puis il y a la dimension aussi humaine. Voilà, c'est ça dont je voulais parler. C'est-à-dire le fait que la pratique de l'interdisciplinarité, elle va nécessiter de créer un collectif. Et justement, ce que je trouvais très intéressant dans l'IUP, c'est que c'est créé de façon assez pas, je dirais pas informel, mais assez spontané, un collectif avec des gens qui venaient de disciplines très différentes et qui ont eu, parce qu'ils avaient envie de faire des choses ensemble aussi, une dynamique qui a été porteuse. Et donc, moi, ce que j'aurais envie de retenir de cette histoire d'interdisciplinarité, enfin, en tout cas de ces pratiques d'enseignement d'interdisciplinarité, c'est premièrement la dimension, je dirais, assez informelle, un peu hors cadre, et surtout humaine de la recherche interdisciplinaire. Moi, je trouve que c'est quelque chose que j'ai aussi ressenti dans la recherche. Voilà. Ça, c'est la première chose. J'ai une deuxième chose à dire, après, je passe le micro. La deuxième chose, c'est aussi que, par exemple, par rapport à cette histoire, alors, cette histoire, les étudiants qui sont venus étaient des étudiants qui avaient un rapport assez engagé à la question environnementale, en fait, aussi. Et ils n'y venaient pas pour trouver un travail, ils y venaient parce qu'ils voulaient changer le monde, sauver la planète. On ne parlait pas de planète à l'époque encore, mais aller dans l'humanitaire, faire des projets, ce qu'ils ont fait d'ailleurs au sein de l'IUP. Et ce rapport engagé des étudiants, il a aussi permis de leur transmettre des savoirs complexes et des disciplines différentes parce qu'ils avaient une ouverture d'esprit sur ces enjeux. Voilà. Et oui, j'arrête.
Allez, j'avais autre chose à dire.
Oui, ben moi je rebondirai. J'étais aussi recrutée dans ces années-là. Et effectivement, mes premiers enseignements ont été au sein du IUP Environnement. Et donc, effectivement, je pense que on était dans un. Enfin, cette IUP était aussi dans un département au niveau de l'université, qui était le département en test. Donc, on n'était pas dans une structure type UFR. Donc là aussi, tu parlais de marge, en fait, on était dans une structure différente. Et les étudiants qui étaient à l'IUP Environnement, d'ailleurs, souvent venaient nous dire, on ne se mélange pas aux autres. Ils étaient un peu dans leur communauté, en fait. Hein,
ils étaient nombreux.
Et ils étaient nombreux. Mais voilà, il n'y avait pas. Donc je pense que, comme tu dis, il y avait quand même une certaine personnalité associé à ces étudiants et peut-être après aussi aux enseignants qui les encadraient. Je pense que tu as raison par rapport à cette notion un petit peu de marge dans laquelle ça s'est inscrit. Et je pense qu'on était aussi dans une forme d'apprentissage. Enfin, il y avait la temporalité aussi du diplôme à l'IP, parce que c'était diplômant quand même. Hein. Oui. Ils cherchaient pas de métier, mais bon, ils allaient vers un diplôme. On était sur un temps assez court quand même. Et ça aussi, ça change aussi la façon de faire les enseignements.
3 ans.
Voilà. Oui, 3 ans, mais donc c'était une licence, quoi. C'était pas un master. On allait à la plus 4.
C'est vrai. Ingénieur maître.
C'est vrai. On sortait ingénieur maître. Donc voilà, il y avait aussi un format qui était différent. Et je sais qu'il y avait du coup une espèce d'apprentissage aussi en douceur qui se faisait. Et on n'était pas dans de la confrontation, je trouvais. Et ça, moi je sais qu'en tant qu'enseignant, c'est comme ça aussi que je l'ai vécu. Et que du coup, on se permettait aussi auprès des étudiants. Alors nous, en écologie, on était beaucoup dans des sorties de terrain. C'était aussi les formations, on avait beaucoup de ouais. terrain. Et donc, en fait, on avait des lieux, des espaces, un petit peu de dialogue entre les disciplines, où on amenait les étudiants aussi sur les différentes disciplines à travers ce format-là. Et donc, ça crée aussi un espèce d'apprentissage un petit peu en douceur que j'ai trouvé, enfin, moi, intéressant avec vraiment une imprégnation qui se faisait au cours du temps.
Il y a une question de Jeff, une intervention.
Qui a aussi.
Pour être à la table.
Non, l'idée, c'est pas de plus soir. C'était juste de dire, par rapport à la pratique, moi, j'ai été recruté juste un petit peu plus tard que vous, dans un IUP qui fonctionnait déjà. Et en fait, ce que je trouve assez intéressant et intriguant, c'est que j'enseignais de manière extrêmement disciplinaire à mon arrivée là-dedans. Et que ça, les étudiants l'exploitaient. Et donc, par la multiplicité des disciplines qu'on leur enseignait, bon, alors à part vous qui faisiez de la sociologie de l'environnement, donc l'objet c'était.
Ah, mais on faisait aussi de la socio. Voilà.
Ouais. Mais bien sûr, de la socio plus globale, mais il y avait déjà l'objet sur la. Moi j'enseignais de la biologie pure. On faisait des dissections animales, de la zoole ou de la botacone, c'était même pas de l'écologie, mes premières. Et en fait, c'est assez drôle, je viens de le constater en vous écoutant, que aujourd'hui, la plupart de mes enseignements sont beaucoup plus transdisciplinaires, interdisciplinaires, je m'en fous comment on le dit, ça m'intéresse peu, mais alors que j'ai commencé dans une structure totalement interdisciplinaire parce qu'elle faisait cohabiter des disciplines très ancrées dans leur discipline et que l'étudiant fabriquait une synthèse de
oui,
ça.
Tout à fait.
L'étudiant,
enfin, l'étudiant alors que, et les démarches pédagogiques.
Bien sûr, parce qu'il y avait des ateliers, il y avait tout ça. Oui, oui, tout à fait. Mais enfin, j'ai l'impression qu'il y a comme une bascule assez forte entre des enseignements disciplinaires et aujourd'hui des enseignements, enfin, en tout cas tels que moi je les pratique, qui le sont beaucoup moins, mais qui peuvent courir le risque de canaliser la réflexion.
Tout à fait, vraiment, je suis entièrement d'accord.
Oui, alors je crois qu'après on a quelque chose sur comment on enseigne, voilà, mais donc je ne vais pas tout répondre à ce que tu disais, mais sur, voilà, pour nous c'est important d'expliquer qu'on est, si on regarde par exemple l'interdisciplinarité franco-française, nous on est les deuxièmes générations, on va dire, hein, il y a eu la génération des Jolivet, Picon, Billot, après Brun, ici... Nous, on est arrivés, et Chantal, Asp, entre, donc nous, on est arrivés jeunes chercheurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait ce mouvement d'institutionnalisation de la question environnementale, à la fois dans l'enseignement supérieur et la recherche. C'est-à-dire que nos labos étaient interdisciplinaires et nos enseignements se faisaient dans un contexte interdisciplinaire. Donc, en fait, ça... On y reviendra après, mais voilà, pour dire que c'était quelque chose qui allait de soi, enfin, allait de soi. Disons qu'on avait à la fois le labo et le lieu de l'enseignement. Et je voudrais dire aussi que c'est, on y reviendra peut-être, mais il y avait énormément, beaucoup plus de moyens mis à disposition de ces formations. On avait en moyenne de 100 étudiants, 300 étudiants par an, c'est ça? Oui, c'était ça, l'entrée.
Il y a 3 ans,
2 ans. Ouais. Et enfin, on avait des moyens, des locaux, on pouvait faire des sorties, etc. Donc, il y avait aussi, quand on veut faire ce type de formation, il faut quand même mettre des moyens. Aujourd'hui, on n'en a plus, hein, si on compare à aujourd'hui. Et il y avait aussi, il ne faut pas se leurrer, si on a interrogé ceux qui l'ont porté, c'est toujours un combat.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que ce n'est jamais acquis. On a beau, et aujourd'hui encore plus, AMU se dit à une mission interdisciplinaire, etc. On ne va pas le faire long, ça en aurait pour longtemps. LPD, on est bien placé pour le savoir. C'est un combat de tous les instants, à chaque fois justifié. Mais pourquoi il y a la sociologie en sciences? Mais pourquoi alors on réclame d'être à la fois en sciences sociales et en sciences, etc. Donc en fait, ce n'est jamais ce qui nous relie aussi, je pense, c'est des manières de croire à ce qu'on fait et de se battre pour faire vivre ça. Et si, à partir du moment où on arrête ça, si on arrête de se battre par rapport à nos institutions, eh ben, il n'y a plus d'interdisciplinarité, il n'y a plus que de la façade. Voilà. Et donc, c'est ça qui est important et qui se pose d'autant plus avec notre système d'enseignement supérieur de recherche actuel.
Je viens juste rajouter. Oui, effectivement, la question de la... Quand l'IUP a été créée, ça a été, oui, une bataille. Enfin, je sais, Claude Monlot qui a créé cette IUP... enfin, c'est vraiment énormément battu, et ça a été effectivement une bataille qui a duré jusqu'à la fin, je dirais, de la présence de cette formation vraiment interdisciplinaire, mais qui donnait toute sa place aux disciplines, et notamment à la sociologie. C'était exceptionnel de ce point de vue-là, ça c'est sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'ici à Saint-Charles, il y a une forme aussi de nostalgie de l'IUP, parce qu'on avait des moyens, des locaux, parce que c'était le bon temps de l'IUP, on était jeunes aussi, etc. Mais je pense que, enfin, ce que moi je retiens, et je voudrais quand même finir sur cette note-là de la question du combat, c'est que c'était, enfin, c'est aussi une aventure intellectuelle par la pédagogie, c'est-à-dire que. Enfin, la question de pourquoi on voulait parler de l'IUP, c'est qu'il ne s'agit pas de dire c'était mieux avant et l'IUP c'était bien, etc., etc. Mais c'est garder l'esprit de ces pratiques interdisciplinaires qui ont lieu dans les années 80-90. L'esprit, c'est-à-dire de se situer là où les enjeux sociaux émergent, c'est-à-dire là où il y a des problèmes qui vont devenir des problèmes de société cruciaux, etc., etc. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas forcément sur l'environnement, pour moi. Enfin, c'est sur l'environnement, mais par d'autres biais que ceux qui ont été ceux de l'IUP. Et c'était un peu dans cette idée-là aussi qu'on voulait aborder l'IUP, pour dire qu'on a été formé et on s'est formé dans ces démarches-là, et que c'est cet esprit qu'on continue aussi à porter dans les formations qu'on propose aujourd'hui au sein d'AMU et qui ne sont pas forcément dans le cadrage institutionnel de l'Union.
Est-ce qu'il y a encore des interventions oui, de la salle sur, oui. Sur cette question-là? On peut passer à la question suivante.
Ça serait bien de... Non,
je sais pas, hein? Non, est-ce que, non, mais est-ce qu'il y a encore des remarques, des... Non, c'était plutôt sur l'historique. Peut-être que les questions d'après, ouais, après, ça sera un peu plus pour la jeunesse.
Juste une précision, parce que c'est vrai qu'on a lancé ça en se disant ouais c'est bon, on est à l'heure, mais l'idée c'est voilà, donc c'est vous avez préparé évidemment un petit peu ces réflexions en amont, mais le public est tout à fait peut tout à fait intervenir au fur et à mesure des questions qui sont posées. Il y en aura 3 ou 4,
ouais, je pense que ce sera
voilà, donc n'hésitez pas, le format est un peu hybride entre la conférence et voilà, vous pouvez intervenir à chaque peut-être fin de question ou enfin, sentez-vous libre de vous exprimer en tout cas.
Alors là, je vais plutôt me tourner vers Julie au départ avec une question qui est peut-être un petit peu naïve, mais c'est selon toi et selon vous, quel est l'intérêt en fait de ces pratiques d'enseignement interdisciplinaire, notamment au regard des questions environnementales qui doivent être prises en charge dans le monde professionnel, et à quelles conditions en fait ces enseignements interdisciplinaires peuvent-ils aider les futurs professionnels à se saisir de la complexité des problématiques socio-environnementales? Et finalement, peut-être une troisième question qui s'intègre dans celle-là aussi, c'est finalement à quel niveau de formation il faut intégrer les enseignements interdisciplinaires.
Du coup, moi, je vais déjà reprendre un petit peu ma spécialité. Mes sujets de recherche se situent au croisement entre urbanisme, aménagement du territoire et construction, monde du bâtiment, santé et environnement. Je travaille essentiellement sur les maladies vectorielles transmises par les moustiques. Et par conséquent, je me retrouve en tant qu'architecte urbaniste de formation, architecte de formation et urbaniste de doctorat, à discuter à la fois avec, par exemple, des entomologistes, des services d'urbanisme, des architectes et des chercheurs dans tous ces domaines, et y compris aussi des médecins. Et il s'agit de faire communiquer tout ce beau monde qui n'a ni le même vocabulaire, ni les mêmes méthodologies, ni les mêmes espaces de travail, et qui globalement se croisent assez peu, mais il se trouve que déjà il faut partir de groupes qui ont envie de travailler ensemble. Si on arrive face à des groupes ou des individus qui n'ont aucune idée de pourquoi on les dérange dans leur travail, et de la question qu'on leur pose, et des personnes avec qui on va travailler, on va nulle part. Éventuellement, on stimulera peut-être un petit peu leur curiosité, mais on ne les fera pas travailler ensemble. Donc ça part déjà pour moi d'une volonté, et ensuite cette volonté peut éventuellement se développer dans des espaces de sensibilisation et de communication, et enfin de travail ensemble. Ça peut se faire au travers d'associations, ça peut se faire dans un laboratoire, ça peut se faire enfin dans des espaces d'enseignement, y compris d'enseignement et de formation de personnes qui sont déjà des professionnels. Et à ce moment-là, on peut rajouter des couches de complexité et de nuances à des choses qu'ils maîtrisent déjà. Et on crée aussi du dialogue entre eux et des possibilités de collaborer. Personnellement, moi j'ai eu le plaisir de collaborer, je continue de collaborer avec l'Agence régionale de santé. Et actuellement, c'est beaucoup des médecins qui me prennent par la main et qui m'amènent en mode « Oui, c'est intéressant, vas-y, viens nous expliquer les difficultés du bâtiment et de l'urbanisme pour vis-à-vis de la transmission de maladies et de maladies infectieuses et tout ça. » Et même avec d'autres disciplines, ça peut être à la fois intéressant et enrichissant. Et dans la question... du coup, à quel niveau on peut commencer à introduire les questions disciplinaires, je pense qu'en fait, ça dépend plus des questions que du niveau et des questions qu'on a envie de poser.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui
veut peut-être, il y a Jeff. T'aurais dû le mettre à la table.
Ouais,
non,
ça.
Oui, t'as raison.
Juste parce qu'il me semble que par rapport à la question de l'intérêt de l'enseignement pluridisciplinaire, Je crois que c'est peut-être impensif que de dire ça, mais quelle problématique ne l'est pas ? Quelle problématique actuelle à laquelle la société est confrontée ne l'est pas ? Et vraiment, ce que moi j'ai appris, et au LPED et au contact des collègues, c'est que des choses que moi j'enseignais absolument connement, je vais le dire, j'ai enseigné pendant 10 ans la biodiversité. Et je dis la biodiversité, c'est défini à plusieurs échelles, etc. Et sauf que, comme si c'était un contenu formel d'une science écologique, ce que ce n'est pas. Quand on regarde à la lumière de la sociologie, d'où vient le concept ? Qui l'a énoncé la première fois ? Quels sont les champs qui s'emparent de ce concept pour... On se dit, mais en fait, la biodiversité, c'est pas du tout un concept scientifique. C'est un concept social. C'est une... Et ça fait parler des gens. Et donc, moi, je trouve ça extrêmement intéressant, donc de l'intérêt de l'enseignement pluridisciplinaire ou des lectures, parce que, enfin, ou de l'éveil pluridisciplinaire, parce qu'après, c'est compliqué que d'être, de s'auto-fracturer, de représenter plein de disciplines à la fois, mais d'avoir une appétence pour pas uniquement les objets de sa science structurée, ça me semble fondamental pour faire bénéficier les générations d'aujourd'hui des écueils que nous, on a commis. Parce qu'on en a commis et on a enseigné des conneries, quoi. Voilà. Des choses assez. Enfin, des conneries dans le sens, j'exagère, mais des choses étroites. Voilà. Au périmètre étroit. Voilà.
Non, j'allais commenter la question.
Alors moi du coup je suis pas du tout dans vos milieux, mais ce que je là j'entends plusieurs choses. J'entends enseigner de manière interdisciplinaire, en interdisciplinarité, mais il y a aussi une autre question, c'est enseigner à pouvoir faire de l'interdisciplinarité, ce qui à mon avis n'est pas la même chose. Et après, ce que j'entends, un troisième élément qui m'intéresserait de... C'est que quand pour avoir accompagné des fois des gens qui sont de disciplines différentes, des fois on a besoin de médiateurs, animateurs, de personnes dont le travail c'est d'animer cette espèce de montée en mayonnaise, en émulsion de personnes qui sont de disciplines différentes. Et du coup, c'est est-ce qu'il y a besoin de former à ces différents niveaux-là ? Est-ce que vous le faites ? Est-ce que ma question est légitime ? Tout à fait du tout.
Tu peux répondre, Marie ?
Je peux commencer, oui. Oui, effectivement, je pense qu'il y a un peu des confusions dans les termes aussi, peut-être qu'on aurait dû plus... En fait, en partant un peu de l'expérience, et puis la question était dans l'application professionnelle. Donc, c'est vrai que les formations qui ont des portées de débouchés professionnels pour les étudiants dans le domaine de la gestion de l'environnement, là, on est dans une démarche d'enseignement interdisciplinaire, c'est-à-dire que, et comme le rappelait Jeff aussi, où les disciplines vont apporter des connaissances spécifiques et que par, je dirais, l'organisation des formations, leur capacité collective à porter des ateliers, des projets interdisciplinaires, vont montrer aux étudiants la complémentarité des approches dans la réponse à des enjeux concrets de gestion ou à des enjeux sociaux. Enfin bon, voilà. Donc ça, effectivement, je pense que lorsqu'on est dans... et qui peut rejoindre, pour être un peu intervenu très longtemps dans le master en médiation scientifique en environnement, peut rejoindre des problématiques de médiation à l'échelle de l'application de politique publique ou de choses comme ça. Voilà. Après, former effectivement à la démarche interdisciplinaire, moi, je ne sais pas si on s'y forme, en fait. On la pratique. Et par exemple, bon, avec Carole, on partage une histoire commune d'avoir fait nos thèses dans un des premiers labos co-dirigés par un hydrologue et un sociologue au CNRS. Et en fait, c'est en prenant les cafés avec les doctorants en hydrologie qu'on a appris l'interdisciplinarité. Et d'ailleurs, j'ai du mal avec le terme interdisciplinarité. C'est-à-dire que pour moi, ce sont des pratiques. Et de ce fait, voilà, la question de la médiation, moi, personnellement, j'en sens absolument pas le besoin, par exemple. Par contre, aller trouver les personnes avec qui j'ai envie, avec qui on va s'accorder sur la façon de travailler ensemble, etc., etc., ça, oui. Mais ça, je pense que c'est beaucoup dans la construction de son travail de recherche à l'intérieur de l'institution, en fait, et du parcours qu'on souhaite avoir. Voilà. Et juste pour, par rapport aux idées de carrière, effectivement, que ça ne soit pas ça qui te motive, parce qu'effectivement, ce n'est pas l'élément essentiel. Voilà. Mais je crois que quand on est là-dedans, c'est qu'on est venu à l'université, pas pour une question de carrière. Voilà.
Oui. Alors moi, pour répondre sur qu'est-ce que ça fait d'enseigner, moi, je pense qu'on en a discuté, le niveau est très, très important. C'est-à-dire que nous, on pense, et c'était le principe de l'IUP, qu'il faut être bon dans une discipline pour ensuite engager un dialogue avec d'autres disciplines. Et l'erreur, et nous on le voit, puisqu'on est passé dans un système, on en parlait, hein, licence-master, où on peut avoir des étudiants dans des masters pluridisciplinaires qui n'ont pas les bases, par exemple en écologie. C'est-à-dire qu'à force de penser qu'on va faire l'interdisciplinarité dès la L1, eh ben, on a des étudiants avec qui cette interdisciplinarité ne marche pas, parce qu'ils n'ont pas la culture disciplinaire. Et pour enchérir ce que disait Jean-François Jeff, c'était que quand on enseigne, et moi c'était nos armes à l'IUP, il faut être super bon dans sa discipline. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à raconter n'importe quoi sur la sociobiologie, sur etc. Quand la sociologie c'est ça, la biologie c'est ça, et votre rôle c'est on va vous aider à essayer par moment, c'est pas tout le temps, c'est des pratiques, etc. Et ça, par moment, ça va matcher. Ce qu'on a vu, par exemple, avec Santiago et Adria, voilà, par moment, le dialogue se fait. Voilà, donc, nous, on se pose la question de cette université qui nous impose de faire des parcours pluridisciplinaires trop tôt. Il faut que les étudiants aient des bagages disciplinaires qui ensuite les aident à comprendre les autres disciplines. De la même manière que moi, je comprends mes collègues écologues, hydrobiologistes, avec mon regard de sociologue. Voilà. Donc ça, c'est une première question qui est fondamentale. C'est-à-dire il faut être bon dans une discipline pour ensuite... Alors, à quel moment, je ne sais pas trop. L'IUP, c'était quand même un bac plus 2. Non, mais ils rentraient à bac plus 2, ils avaient une année. Bon, et à l'époque, il y avait un bac quand même spécifique, ce qu'on n'a plus, puisque maintenant on fait l'interdisciplinarité dès le lycée. Mais, je mets les guillemets sur l'interdisciplinarité. Voilà. Donc, ça, c'est quand même important. Et après, du point de vue de la sociologie, ce que ça apporte, c'est sur les métiers de la gestion de l'environnement, c'est pas que la sociologie, hein, c'est aussi les autres sciences sociales, permettent de donner des compétences dont, alors, et le problème c'est que les étudiants, alors soit ils nous croient sur parole, surtout moi, enfin surtout nous les sociologues, quand on leur dit c'est vachement important d'avoir la sociologie, de venir, j'étais en cours hier sur 40 étudiants, je pense qu'il y en avait 10 qui étaient convaincus de l'intérêt d'un cours de sociologie, quand on les forme au début, ils sont très sceptiques. Alors même s'ils choisissent des parcours interdisciplinaires, franchement, les sciences sociales, c'est pas des sciences, ça leur rappelle leur lointain cours de philo qu'ils n'aimaient pas. Et puis, de toute façon, on n'est pas scientifique, on ne sait pas gérer les statistiques, c'est complètement faux. Mais voilà, donc ça renvoie à toute une construction sociale fausse des disciplines et qui nous impose. Alors après, on est selon l'humeur du jour, on est plus ou moins. Mais après on a des techniques aussi. Moi je pense que la manière dont j'enseigne la sociologie en sciences, ça n'a rien à voir si j'enseignais en sociologie. Et alors des fois on est frustré, etc. Mais voilà, c'est pour dire que c'est pas parce qu'on dit qu'il faut faire l'interdisciplinarité que les étudiants sont ravis d'en faire. Hein. Et souvent, ça va être un déclic, un stage, une lecture. Ou alors, on voit quand même ce que disait Marie, c'est dans les années 90, on avait des étudiants engagés, ça a décliné. Pendant longtemps, on a eu des étudiants que j'appelais techniciens, c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais voilà, qui venaient là pour chercher un métier. Et ça revient, le militantisme, on le voit quand même chez les jeunes, revient. Et du coup, pour nous, c'est quand même une manière de penser autrement nos enseignements.
Oui, pour rebondir, c'est l'histoire de le niveau, à partir de quel niveau il faudrait la mettre en place. Moi, j'abonde dans le sens qu'effectivement, d'un point de vue disciplinaire, il faut acquérir des bases fortes dans une discipline.
Maintenant, je pense qu'effectivement, on a été mis en place, par exemple, en L1, maintenant, des lieux où il y a un éveil, je dirais, à des disciplines différentes de ceux sur lesquels peut-être ils s'engageraient de manière prioritaire en s'inscrivant, par exemple, sur un parcours biologie à l'université. Et je pense que se met quand même des petites graines au départ. Hein, c'est-à-dire que, comme tu dis, il y a des étudiants qui peuvent y être sensibles et qui commencent à cheminer intellectuellement vers peut-être une démarche scientifique ou une posture scientifique qu'ils vont avoir qui sera peut-être différente. Parce que c'est vrai que si après on assoit des premières années à l'université uniquement disciplinaire, quand après ils vont peut-être s'orienter sur des parcours de master où il y aura de l'interdisciplinarité, ça peut être brutal. C'est-à-dire que d'un seul coup, on peut faire de la socio alors que j'ai fait que d'écologie jusqu'à maintenant. Donc ça aussi, c'est peut-être pas facile non plus. Donc, alors soit ils vont se fermer, ils vont pas s'orienter là-dessus, ou alors il y en a qui ont envie intellectuellement peut-être, parce qu'ils comprennent, ils ont compris la complexité des approches, ils sentent que ils vont avoir besoin peut-être de ces apports-là, mais c'est brutal pour eux parce qu'ils n'ont pas les bases minimum pour suivre. Donc, c'est difficile, mais je pense qu'on peut peut-être, dès la L1, il y a une imprégnation. On le voit, nous, dans nos parcours qu'on a eus de chercheurs, où on a construit notre interdisciplinarité chemin faisant. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qu'il faut peut-être arriver à transmettre et à leur donner l'opportunité de se construire aussi intellectuellement dans des postures comme ça. Donc, et ça imposerait de l'avoir dès le début. Alors, moi, je voulais aussi rappeler que il y a une question de moyens aussi, c'est-à-dire que maintenant, quand on voit le nombre d'heures qu'ont les étudiants par semaine dans les parcours, bon, ça s'est réduit, hein, ça s'est réduit quand même au cours des années. Et donc, l'IUP, ils avaient des semaines énormes. Dans toutes les formations, et ben maintenant il y a beaucoup de travail personnel à faire à côté, etc. Bon, on maquille ça comme ça, mais ils n'ont plus des semaines à 40 heures de cours. Il n'y a plus les moyens qui sont mis. Et est-ce que finalement aller vers s'ouvrir à différentes disciplines, ça demande du temps et ça demande des moyens, des heures à passer face avec des enseignants qui vont aborder par exemple la biodiversité avec peut-être leur spectre disciplinaire, leur filtre disciplinaire. Et donc oui, on peut, comme Jeff l'a dit de manière très basique, dire que la biodiversité, c'est différents niveaux d'organisation, etc. Mais je pense que c'est important qu'ils aient aussi cette entrée très, on va dire, très fondamentale de chaque discipline. Mais si le sujet de biodiversité est abordé par différentes disciplines, eux-mêmes, après, feront aussi une synthèse. Et moi-même, en tant qu'écologue, je ne vais pas parler de la biodiversité comme le ferait un sociologue. Et je ne veux pas y prétendre, parce que je ne saurais pas le faire. Voilà. Donc, c'est juste pour dire qu'à mon avis, on a aussi maintenant un format de formation qui altère beaucoup la mise en place de plein de choses, c'est sûr.
Il y a Christine aussi.
Oui, du coup, dans la continuité, en fait, je voulais savoir comment on fait pour dépasser le jargon de métier, le jargon disciplinaire, le sens des mots, le sens des qu'on donne à certains concepts entre disciplines, qui peut être totalement différent, et comment on apprend à parler le langage de l'autre, en fait. Alors, j'imagine aussi, vous avez peut-être déjà répondu à la question en partie, dans le sens où il faut être bien conscient de ces concepts, de leur définition dans chaque discipline, pour après avoir cette capacité de discuter de ces mots, du sens des mots, et d'accepter qu'il n'ait pas la même définition dans les différentes disciplines ou différents métiers. Mais face à des gens qui n'ont pas cette capacité, comment fait-on pour les accompagner dans cette ouverture d'esprit du fait qu'on n'utilise pas les mêmes mots pour les mêmes choses?
Du coup, je vais essayer de répondre à cette question et un petit peu commenter aussi ce qui a été dit sur à quel niveau il faut commencer l'interdisciplinarité, et peut-être que je vais réussir à faire lien entre les deux. Moi, je viens d'une discipline qui vise davantage l'opérationnalité et les approches prospectives, c'est le cas en tout cas pour l'aménagement du territoire et l'urbanisme, et dans ces disciplines, ou l'architecture, dans ces disciplines, c'est très important que les étudiants soient mis en face d'une certaine forme d'interdisciplinarité, le plus tôt possible, parce que c'est ce qui va marquer ensuite les méthodes qu'ils vont mettre en place d'un point de vue dans le projet, en fait. ce qu'en architecture on appelle le projet. Et si ces méthodes et ces graines en fait sont pas plantées tôt, il se peut qu'ils effacent totalement par exemple l'aspect sociologique du projet ou même la conception participative des projets, ce qui dans ces disciplines-là s'avère être plutôt grave en fait, à différents niveaux. Quant à comment est-ce qu'on crée ces ponts de vocabulaire ou de pratique entre les disciplines, là je pense qu'effectivement ça se fait, en tout cas moi ma pratique c'est de le faire au travers de sujets communs et de problématiques communes. À partir du moment où on se pose une question similaire ou commune, je repars sur mon exemple des maladies vectorielles, à partir du moment où on se pose tous la question de comment est-ce qu'on les endigue et qu'on essaye de poser ce genre de questionnement-là, on peut arriver à créer des situations où en fait on se retrouve à parler des enjeux des uns et des autres et donc à les relier. Et de ce fait, on peut commencer à faire du travail de définition ensemble, à s'expliquer mutuellement la position de l'autre, et peut-être du coup à avancer progressivement sur d'autres manières de communiquer et de franchir un peu le pont, en tout cas la frontière, entre certaines disciplines. Après, bien sûr, il y a des disciplines pour lesquelles c'est beaucoup plus facile que pour d'autres. Typiquement, en urbanisme, on a l'habitude de mélanger à la fois le droit, la géographie et l'ingénierie, par exemple. Et par conséquent, c'est facile de discuter entre ces trois disciplines dans le contexte architectural ou urbain. Si on prend, par exemple, si on introduit après l'écologue qui va demander à l'architecte de ne pas construire son parking sur la mare parce qu'il y a des crapauds qu'il faut absolument protéger, et vous allez voir l'architecte qui va pester dans toute l'agence en hurlant « mais qu'est-ce qui m'emmerde avec ces crapauds ?» Donc, et là, il va falloir effectivement que quelqu'un, peut-être éventuellement un architecte ou un urbaniste, qui a eu l'habitude de travailler avec des écologues, qui aille vers lui, qui aille lui expliquer, qui aille lui montrer aussi qu'au-delà de l'enjeu économique ou de l'enjeu temporel auquel est confronté l'architecte, que effectivement cette histoire de mare aux crapauds est peut-être plus importante que ce qu'il imagine dans le contexte dans lequel il est en train de faire son projet. Et dans ces cadres-là, effectivement, on peut arriver à créer un vocabulaire qui peut être spécifique à la question, par exemple. Je ne sais pas si j'ai bien répondu.
Il y a Christine.
Non, vas-y. Bon, je voulais revenir juste, rebondir par rapport à ce qu'avait dit Valérie et les autres collègues, par rapport à la notion d'interdisciplinarité et la connaissance disciplinaire qui se devait d'être solide. Et en fait, le fait est que bon, j'interviens dans un parcours de licence qui est un parcours qui est pluridisciplinaire, et c'est pas du tout incompatible, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut commencer l'interdisciplinarité par faire du disciplinaire, mais juxtaposé et de manière très solide. Et quand j'étais allée interroger les étudiants qui avaient subi, c'est un mauvais terme, qui avaient vécu l'ancienne maquette de la formation, pour leur demander ce qui allait, ce qui allait pas, qu'est-ce qu'ils auraient voulu changer, ils m'avaient dit, les yeux transverses comme ça, directement, c'est trop compliqué pour nous. On aurait besoin, au départ, d'avoir des connaissances disciplinaires fortes, et puis ce n'est qu'après qu'on pourrait les aborder de manière transverse, mais uniquement dans certaines UE. Et c'est vrai que quand on avait mis en place le parcours, dont je ne citerai pas le nom, sinon je vais me faire tomber dessus par la moitié de la salle, qui s'appelle Homme et Environnement, donc excusez-moi, voilà. Eh bien, on était revenu en fait à ces fondamentaux de disciplinaire fort, en tout cas en L2, et même une grosse partie de la L3. Et le fait est, on en discutait tout à l'heure en aparté, puisque on travaille ensemble également en enseignement, qu'on a une UE en L3 qui est une UE transverse, qui se veut interdisciplinaire, qui est gérée à la fois par des écologues et puis à la fois par des sociologues, et qui propose aux étudiants de, ben justement, de développer, de problématiser quelque chose à partir d'un terrain commun, enfin une problématique à partir d'un terrain commun. Et donc cette UE, ça fait maintenant 4 ans qu'elle est montée, que les collègues la font tourner, et ils se rendent compte que c'est extrêmement difficile, c'est-à-dire malgré le fait qu'ils aient acquis des connaissances dans les diverses disciplines, d'un coup arriver à faire cette fusion-là, elle est très très dure. Maintenant, c'est vrai que pour simplement pour donner l'avis des étudiants, hein, eux, ils sentent ce besoin d'avoir au départ des connaissances qui soient un peu, qui soient pas un peu, qui soient disciplinaires, qui soient un peu sectorisées. Et je pense qu'il y a quand même de l'interdisciplinarité dans la mesure où, dans ces disciplines, ils ont des disciplines très variées. Et c'est ça qui fait au départ, alors c'est peut-être pas de l'inter, c'est peut-être la pluri, c'est peut-être... mais voilà, tout ça pour dire que au niveau, concernant le niveau, je dirais que d'après eux, ce qui est bien, c'est d'enseigner très tôt diverses disciplines, mais au départ, de ne pas rendre les choses trop complexes, parce qu'en fait, ils ont... Enfin, c'est dur, ça bouscule un peu l'interdisciplinarité. Et ils ont besoin de ça.
Peut-être que vous pourrez répondre aussi, j'avais juste une question dans la continuité de ce que tu disais, Christine, c'était, est-ce que dans la salle où les enseignants qui m'ont enseigné en interdisciplinarité, est-ce que vous avez des retours, par exemple, sur des étudiants qui se sont insérés dans le milieu professionnel et qui ont fait des formations pluri ou interdisciplinaires, sur ben, est-ce que ça l'a apporté, est-ce que ça les a aidés? Parce que sur le coup, peut-être qu'ils se disent c'est dur, etc. Mais peut-être qu'après, sur le long terme, ça peut apporter en fait plein de choses qu'on se rend pas forcément compte sur le coup, en fait.
Est-ce que je peux répondre, moi?
Oui, peut-être. Vas-y.
Alors, en fait, je réponds à ta question. Je vais prendre juste mon exemple. Moi, je viens d'une formation ancienne, hein, parce que je suis de la même tranche d'âge que mes anciennes collègues autour de la table, qui était à l'époque considérée comme une formation pluridisciplinaire, puisqu'elle s'appelait chimie analytique et sciences de l'environnement. Et j'ai eu un parcours qui m'a permis en fait de valoriser cette pluridisciplinarité, qui pour moi maintenant n'en est pas une, parce que c'est quand même commun de mélanger la chimie à la biologie, hein, mais à l'époque, on ne reviendra pas au temps des dinosaures, hein, on ne va pas insister non plus. Et j'ai eu un master en chimie, et j'ai fait un doctorat en écologie, et sur une première partie de ma carrière, j'ai beaucoup exploité cette double compétence, quoi. Donc, en tant que personne, moi, ça m'a beaucoup servi.
Juste à côté de toi, Angèle.
Une note très courte, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que je pense que aussi, et ça a été noté justement, quelque chose de fondamental vis-à-vis de l'interdisciplinarité, c'est finalement c'est aussi le temps, c'est l'habitude d'être au contact d'autres disciplines et de pratiquant d'autres disciplines. Je reprends mon exemple des architectes avec les écologues, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus commun et maintenant il y a de moins en moins de résistance face à la présence d'un écologue dans un bureau d'études ou simplement dans l'équipe de ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre, mais dans l'équipe des gens qui vont concevoir un projet, par exemple. Et avec cette habitude vient aussi une facilité dans les dialogues.
Juste un exemple, donc les écoles d'ingénieurs de Grenoble ont mis en place une formation Master 2, quoi, troisième année, sur la transition. Eh bien, dans cette formation, donc, des élèves ingénieurs des différentes écoles de Grenoble, l'année dernière, il y avait 30 élèves, cette année, il y en avait 80 qui voulaient venir, et ils viennent là pour avoir un enseignement, justement, interdisciplinaire, parce qu'ils ne veulent pas être ingénieurs au sens classique. Et donc, la formation interdisciplinaire qui suit correspond effectivement à leur volonté d'exercer un métier d'ingénieur différent. Et aujourd'hui, enfin, dans les écoles d'ingénieurs, en tous les cas, la consigne, c'est faire en sorte que les questions de transition soient traitées dans tous les enseignements. Oui. Ce qui va poser effectivement toutes ces questions-là pour dire que la transition va effectivement redonner un renouveau sur ces questions de manière très importante parce que ça va se diffuser dans tous les enseignements.
Je parlerai après.
Moi, je voulais juste répondre à Johan qui parlait de ces terminologies, enfin, quel mot employer pour quand on est face à un public qui n'a pas finalement un bagage disciplinaire, finalement, enfin, ou du moins qui est balbutiant, quoi, hein, qui n'a pas peut-être encore 5 ans d'écologie derrière lui pour après appréhender donc la terminologie d'une autre discipline. Effectivement, moi ça m'évoque la simplification. On a parlé de compromis, hein, dans les communications. c'est difficile de ne pas tomber non plus dans trop de simplifications. Moi, c'est un petit peu, quand je regarde mon expérience, je me rends compte que quand parfois je dois tenir un discours interdisciplinaire et je sens que ben voilà, l'auditoire, les étudiants n'ont pas forcément tout le bagage qu'il faut, on va je m'oriente vers une simplification, même dans l'explication de ma discipline. Et souvent, je me reprends en disant, attention, trop de simplification fait que... Bah, on est quand même dans l'enseignement supérieur, et puis jusqu'où on va dire des choses encore vraies quand on simplifie trop. Donc ce qui est difficile, c'est de trouver justement la balance, le compromis entre les deux. Et pour ne pas tomber dans cet excès de simplification qui permettrait de pouvoir tenir un discours qui est compréhensible par des étudiants, il faut voir aussi c'est que maintenant les étudiants viennent aussi de parcours très différents. Ça a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'avant, on avait des étudiants qui avaient à peu près tous une formation initiale, qui était assez équivalente dans le parcours. Maintenant, ils ont des formations différentes, des formations initiales très différentes. Donc, on a aussi un auditoire qui est pluridisciplinaire aussi dans ce qu'ils savent. Et donc, on a ces ajustements perpétuels. Et c'est vrai, Christine le disait, les étudiants apprécient d'avoir du savoir disciplinaire. Ils en éprouvent le besoin, on essaie de comprendre. Mais je réitère le fait qu'il faut pour ça du temps. Et qu'en fait... moi j'enseigne dans ton parcours et je trouve que 5 séances de biologie non, on leur donne pas ce qu'il faut quoi, comme bagage, c'est à dire qu'à un moment donné on n'a pas suffisamment d'heures pour donner ce bagage disciplinaire qui fait que du coup on ne va pas tant vers une simplification des choses et qui finalement va desservir à un moment donné le fait de former des gens compétents à appréhender la complexité des choses parce qu'on leur parle de manière beaucoup très simplifiée. Je sais que c'est un petit peu ce qui, à l'heure actuelle, me fait réfléchir quand même par rapport à ces parcours pluridisciplinaires. Ça me pose question.
Je viens. Non, allez-y, priorité à la salle. Bon.
Moi, c'est peut-être pour parler un peu par rapport aux universités et tissus. Bon, pour qui que je connais un peu mieux, par exemple, à Ouagadougou, cette question d'interdisciplinarité ne marche pas. Par exemple, chacun protège son domaine. Pour un étudiant, par exemple, qui a fait un master en chimie, ne pourra pas faire des thèses dans une autre discipline. Et même si tu as l'occasion de faire ça dans un autre pays et que tu reviens à l'université, tu ne pourras jamais avoir des postes. Pourra peut-être enseigner dans le privé ou bien embrasser une carrière dans le privé, mais pas à l'université. Et ça fait que d'un côté, il y a ce qu'on appelle les masters de recherche. Voilà, pour les étudiants qui ont une envie de poursuivre en thèse et puis dans la recherche. Et de l'autre côté, il y a le master professionnel pour les étudiants qui voudront embrasser une carrière dans le privé, dans le développement, comme ça. En tout cas, faire une formation, il faut toujours avoir une formation initiale dans un domaine précis pour pouvoir continuer jusqu'en thèse, quoi. Voilà.
Moi, je voulais juste rebondir sur deux choses. En partie pour répondre à Yoann aussi, il me semble qu'effectivement, la question est essentielle dans les pratiques. Alors là, je dirais aussi bien de recherche que d'enseignement. Est-ce qu'on éprouve avec Valérie, par exemple, quand on travaille sur l'UE intégré interdisciplinaire du parcours en environnement, c'est arriver à se poser une question commune, en fait. C'est-à-dire une question de recherche qui soit qui parle au sociologue et qui parle à l'écologue. Et forcément, en construisant ce questionnement, on va discuter des concepts qu'on mobilise, de pourquoi on mobilise tel concept et pas tel autre, etc. Et donc, la discussion qui se crée lorsqu'on essaye de construire ce questionnement commun, et pour moi, il y a interdisciplinarité quand on en est là. C'est-à-dire que, juste à, par exemple, le modèle ANR de l'interdisciplinarité du work package, ce n'est pas l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que chacun fait sa petite sauce dans son coin, etc. Et effectivement, pour rebondir sur ce que dit Valérie, ça demande du temps dans la recherche ou dans l'enseignement. On ne peut pas faire des pratiques de recherche interdisciplinaire si on n'a pas de temps. Donc ça, c'est... Voilà. Et qu'effectivement, deuxième élément, la question des réformes institutionnelles dans lesquelles on est depuis 20 ans alors même qu'elle prône l'injonction à l'interdisciplinarité, empêche de l'exercer, concrètement. Voilà. Donc, et je voulais rebondir aussi, donc ça c'était le deuxième élément, sur le fait que le principe de pluridisciplinarité se généralise. C'est-à-dire que, par exemple, nous, dans nos parcours, on est arrivé à la recherche interdisciplinaire pendant et après nos thèses, en fait. Mais on a fait des thèses de sociaux dans des labos de recherche interdisciplinaire, on a soutenu des thèses de sociaux dans des départements de sociaux, etc., etc. Et vous, en écologie. Et aujourd'hui, on a plus d'apparition de disciplines et de plus en plus tôt. Et ça, je trouve que c'est vraiment un problème de fond. D'abord parce qu'il y a une multiplication de l'offre de formation. Aujourd'hui, quand on voit... Je m'étais amusée à compter à un moment donné... On a fait une publication sur le devenir des étudiants de l'UP, justement. Et quand on s'est amusé à compter le nombre de masters qui ont été créés entre 2005 et 2020 de formations ouvertes, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y avait plus de 1000 offres différentes de thématiques. Donc on n'est plus sur des disciplines, on est sur des thématiques, effectivement, la transition, le développement durable, l'aménagement durable du territoire, etc., qui sont des notions qui ne renvoient à aucune discipline, en fait, et qui produisent un contenu qui est un contenu où je trouve que la pratique de l'interdisciplinarité est de plus en plus compliquée, en fait, parce que ça produit un espèce d'effet un peu flou sur qu'est-ce qu'on veut faire dans ces masters. Et en termes de contenu d'enseignement. Donc effectivement, et juste pour terminer sur ce que vous disiez, à l'heure actuelle, le prochain quadriennal, on va avoir trois UE imposés par le cadrage national, développement durable, innovation, internationalisation, qui vont être des UE intégrés obligatoirement dans les formations de licence. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un module compétences complémentaires qui bouffe 15 CTS, je ne sais pas bon, techniquement. En fait, on a des formations qui sont remplies d'enseignements, qui ne sont plus des enseignements, qui sont des méthodes, voilà. Et par exemple, développement durable, ben, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de l'éducation au développement durable, d'accord? C'est-à-dire un discours extrêmement moraliste qui n'est fondé sur aucune donnée scientifique, que ce soit en écologie, que ce soit en sociologie, etc. Mais pour autant, après, nous, on aurait des compétences pour déconstruire ces discours dans des UE disciplinaires. Et voilà, et on va nous imposer des choses qui... Voilà, donc on est dans une logique aujourd'hui qui est une logique où on a un cadrage institutionnel. Et moi, je pense que si en tant qu'enseignant-chercheur, on continue à adouber ce système et à le perdurer en rentrant comme il faut dans les cadres... Après, il y a différentes façons. Hein. On peut hacker ces UE, on peut les prendre et dire non, je m'en occupe et je fais autre chose dedans, etc., etc. Mais... en tout cas, le vrai problème, c'est que les formations ont vu leur nombre d'heures divisé par 2 en 20 ans. Donc, quand on faisait une licence de sociologie, on avait 2000 heures de sociologie. Aujourd'hui, on en a 1000. Quoi. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est normal que les étudiants n'aient plus les bases disciplinaires pour arriver. Et ensuite, en plus, ils sont noyés dans des formations où la visibilité des disciplines est extrêmement compliquée. Tout ça en disant qu'on fait de l'interdisciplinarité. Et moi, je pense qu'elle n'existe plus aujourd'hui, ou alors en tout cas, c'est extrêmement compliqué de la mettre en œuvre.
Bah, du coup, Marie, est-ce qu'il y avait encore des questions?
Oui, il y avait une question. Ouais.
Non, en fait, je voulais compléter ce que Mahmoud disait, et même dans le cas de Ouagadougou, au même moment où on interdit quelqu'un qui fait la chimie et qui va faire peut-être l'écologie, ne peut plus continuer à enseigner à l'université, mais on retrouve dans les UE un peu d'autres disciplines qui sont dispensées dans ces mêmes formations, qui sont, quand on prend en mathématiques, on va retrouver des notions souvent d'autres matières comme la sociologie qui est un peu dans ces disciplines. Et quand on va plus loin au niveau des chercheurs, on retrouve les chercheurs en mathématiques travaillent beaucoup avec les chercheurs en médecine, par exemple, et qui publient ensemble, et ou en démographie, ils travaillent beaucoup. Les sociologues, les démographes travaillent beaucoup, ils publient ensemble. Mais au même moment, c'est dommage qu'on retrouve, par exemple, il y a l'exemple d'un étudiant qui a fait une thèse en biologie, mais il paraît qu'il n'a pas de licence en biologie. Et du coup, on l'a bloqué. Il ne peut pas poursuivre à l'université. Merci.
Merci pour ces témoignages. Donc on va passer à la dernière question, même si du coup on l'a un petit peu abordée. Il n'y a pas de souci, tu as fait une très belle introduction. Du coup, la dernière question qu'on se posait, c'était quel est l'avenir de ces pratiques d'enseignement interdisciplinaire dans le contexte actuel d'injonction généralisée à l'interdisciplinarité. Notamment le fait que la pratique de l'interdisciplinarité, d'après tout ce qu'on dit, donc ça nécessite des espaces et des temps communs de travail et de réflexion qui sont parfois, même souvent, difficiles à trouver. Et en fait, la question, pour donner un petit peu une note positive aussi, si on peut, c'est comment est-ce qu'on peut recréer en fait des espaces et des temps de réflexion collective. Et voilà.
Je dis au bar. On a répondu au bar.
Aller au bar, on est hébergé.
C'est compliqué. Je pense qu'on a un peu répondu en disant qu'il y a à la fois un peu une... Moi, je pense que le mot d'ordre, c'est la résistance. C'est-à-dire qu'il faut... comme on peut, où on peut. C'est-à-dire que... Et en soi, c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'il faut chaque fois dire, mais ce que vous nous imposez de manière sous le truc... C'est pas cette interdisciplinarité-là qu'on fait. C'est pas celle qu'on pratique. C'est pas celle qu'on enseigne. Et donc, on est en permanence en train... On est tout le temps en train de... ce que tu disais, est-ce que dans le développement durable, on dira non, ou est-ce que finalement, on fera un peu ce qu'on veut dans l'UE ? Voilà, donc on est en permanence dans le fait d'accepter et de résister, d'une certaine manière, à ces injonctions. Donc ça, c'est un premier point. Et je pense que c'est pour ça qu'on a voulu commencer sur l'histoire, pas parce qu'on est nostalgique, mais parce que pour nous, c'est aussi sans cesse rappeler, ce n'est pas nouveau, il y a de la littérature sur ça, il y a de l'expérience, il faut s'en inspirer, Marie l'a dit, il y a de l'engagement, il y a du personnel, il y a de l'humain, tout ça, ça a été écrit quand même aussi, il y a quand même des bouquins qui ont été écrits il y a 40 ans, moi j'aime beaucoup des papiers de Barbier Pastor qui dit l'indiscipline des chercheurs interdisciplinaires, mais c'est avoir un objet commun, une question commune, un terrain commun, bien s'entendre, la confiance, toutes ces choses-là, on ne va pas les réinventer. La pratique, c'est une pratique, c'est chaque fois une aventure, etc. Et tout ça, je pense que notre rôle, c'est de le répéter et de le...
Et de continuer
à le faire. Et je voulais juste... ce que tu dis sur les métiers, est-ce que finalement, on dit... est-ce que c'est une plus-value pour les étudiants et les étudiantes d'avoir des formations interdisciplinaires? Bon, alors, il y a eu des enquêtes sur les études. Peut-être Marie en parlera sur l'IUP, mais bon... ça date. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des retours sur nos étudiants de master? Est-ce qu'on en a statistiquement fiables? Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que tu as plusieurs types d'étudiants. Tu as des étudiants qui sont venus volontairement dans ces formations et qui vont en retirer forcément quelque chose. Tu as ceux qui sont un peu au moyen amphi, quoi. C'est-à-dire qui sont là, qui ne sont pas trop, donc, et qui peuvent... Finalement, moi, j'enseigne, par exemple, dans un master d'hydrobiologie. Bon, il y a ceux qui feront des modèles d'hydrologie dans des bureaux d'études. À vrai dire, la sociologie, je ne sais pas trop. Pour moi, ça leur servira toujours, au moins dans leur parcours professionnel, mais concrètement. Et puis, il y a ceux à qui ça ne va pas du tout parler. Donc, je ne sais pas bien si ça va plus servir aux étudiants qui vont pouvoir aller dans les collectivités locales, dans les gestions, dans les syndicats de gestion, etc., que des choses extrêmement pointues, quoi. Voilà, même si je pense que c'est important pour une formation universitaire, quand même, cette ouverture disciplinaire.
Lance le débat, je suis pas sûre.
Moi, je pense aussi que c'est rassurant pour les employeurs, comme par exemple une collectivité, quand ils voient que sur le CV, l'étudiant est issu d'un parcours interdisciplinaire ou pluridisciplinaire. Il est rassuré en disant que c'est quelqu'un qui va pouvoir aborder les choses avec différents points de vue, etc. Donc il y a aussi un petit peu ce jeu un petit peu de ça c'est attendu, donc ben voilà, je m'engage aussi dans ces formations parce que c'est attendu. Et c'est attendu du côté de l'employeur, mais après, est-ce qu'il y a de la déception ou pas ? Ça serait intéressant de savoir aussi. C'est-à-dire, est-ce que finalement, les collectivités qui commencent à avoir des jeunes qui sortent de ces formations pluridisciplinaires ou interdisciplinaires, qui sont plutôt destinées à aller dans des organismes de gestion, etc., est-ce qu'ils y trouvent leur compte ou pas, aussi, hein, par rapport aux compétences, aux capacités que les employés vont donner ? Ça, je me pose, moi, cette question. Et je me dis que finalement, voilà, est-ce qu'à un moment donné, voilà, on n'est pas dans un leurre quand même, un peu généralisé. Voilà, je lance le débat, parce que c'est difficile. Moi, je pense que les UE interdisciplinaires qu'on a, comme par exemple dans le parcours de Christine, il y en a une, où effectivement, on les met sur un terrain commun, ils essaient de réfléchir à problématiser des enjeux de territoire en commun. Et je pense que là, on leur montre que finalement, ils ont énormément de mal à le faire, mais ça, je dirais, la vertu de leur montrer que quand on est en groupe, ensemble, plusieurs à réfléchir avec différentes entrées, c'est un petit peu une posture intéressante intellectuellement. Et voilà, c'est-à-dire que c'est pas la clé, mais voilà, je pense que ça a cette vertu-là. Quoi. Mais je voudrais pas que, moi parfois j'ai peur que certains étudiants disent, voilà, bon ben non, j'ai fait un peu de socio, j'ai fait un peu d'écologie, un peu de géographie, je sais tout sur tout, et du coup, je vais pouvoir aller dans ma collectivité faire ce qu'il faut. Bah, si il est là-dedans, il y en a qui se positionnent comme ça, je pense que là, ils ont faux. Voilà. C'est un peu ce qui m'effraie, moi.
Oui, juste rebondir sur ce que tu dis et ce que disait Carole, effectivement, puis après, on discutera. Je pense que ce que tu dis est fondamental, c'est-à-dire qu'on puisse montrer aux étudiants à un moment donné le plaisir intellectuel qu'on a à échanger entre nous. Tu vois, c'est-à-dire montrer comment l'apport du regard, et du regard notamment critique, pas au sens de critiquer, mais au sens où c'est l'apport fondamental des disciplines universitaires, c'est d'apporter un recul critique sur le réel, quel que soit notre objet. Et donc, le plaisir intellectuel d'échanger là-dessus, je pense que c'est ça qu'on peut transmettre à un moment donné dans la pratique d'enseignement interdisciplinaire. Parce que même des fois, quand ils nous voient discuter entre nous, bon, ça peut les amuser, mais je pense qu'il y en a certains qui captent quand même que bon, on s'amuse bien nous aussi. Quoi, voilà. Et donc ça, c'est ça. Et le faire avec plaisir, ça me paraît aussi. Et justement, pour ça, je pense qu'il faut qu'on sorte un petit peu du cadrage de l'utilité. C'est-à-dire à quoi ça sert, est-ce que ça va me servir professionnellement ? Mais je dirais, et de ce point de vue-là, je pense que notre histoire et les pratiques d'enseignement interdisciplinaire qu'on a, elles peuvent faire du bien plus généralement à l'enseignement à l'université. C'est en se disant, on ne doit pas être tout le temps en train d'interroger l'utilité de nos enseignements d'un point de vue professionnel, d'un point de vue ci, etc., etc. Et de renouer avec des fondamentaux de ce que c'est qu'enseigner à l'université. Et puis, le dernier truc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà. Et puis après, bah, que ça reste dans les marges, moi, ça ne me dérange pas spécialement. Et quand je disais au bar tout à l'heure, je disais à moitié en rigolant qu'on pourrait en discuter au bar. Parce qu'en fait, alors justement, je trouve qu'aujourd'hui, il y a des choses très intéressantes qui se passent et qui ouvrent des portes de réflexion et qui ouvrent aussi des perspectives pour avancer et mettre en œuvre ces choses-là. La première chose qui se passe, c'est ce dont vous témoigniez tout à l'heure, c'est-à-dire une demande des étudiants, en fait. C'est-à-dire il y a une très forte demande, on l'observe dans les données statistiques du CEREC, il y a des bifurcations professionnelles très fortes à la fin du master, où on a 10% d'une génération diplômée, à peu près, qui fait complètement autre chose. Et dans ces 10%, il y a des gens qui repartent vers des métiers qui peuvent être vécus comme, enfin, ou être analysés par le sociologue comme disqualification du diplôme, c'est-à-dire boulanger bio à Marseille. Moi, j'ai un ancien étudiant qui fait de la ferronnerie avec de la récupération de truites, de peaux de truites pour faire des abat-jour. Donc voilà, il a fait un master 2 médiation scientifique en environnement. Il y a d'autres anciens étudiants des masters issus de l'IUP qui se sont mis à faire du champignon sous le courju, dans les anciennes bananeries du courju, avec du marc de café récupéré dans les bars. Voilà, donc Donc il y a une dynamique sociale réelle dans cette génération qui est qu'ils cherchent à redonner du sens au travail. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus, d'autobiographies, etc., où on vient, on fait des études, et puis il y a une énorme déception, ce qui était dit tout à l'heure, c'est une énorme déception de « ben, c'est pas ça que j'avais envie de faire, moi j'ai envie de me réengager », ce que tu disais Carole, on retrouve ces étudiants qui ont une envie de changement, en fait. Et nous, on offre quoi ? UE Développement Durable, tu vois, en face. Donc, et moi, je pense qu'effectivement, vis-à-vis de ces étudiants, on a aussi une responsabilité à offrir des espaces et des lieux où, ça ne veut pas dire que tous les étudiants vont venir là, mais qu'on puisse, pour ceux qui sont dans cette attente vis-à-vis de l'université, leur donner les moyens d'accès à l'apport des savoirs universitaires critiques, au sens noble du terme, quoi. Et voilà. Je connais certaines personnes de Grenoble, mais en France, en ce moment, il y a quand même une dynamique très minoritaire, mais qui existe, et bon, avec Carole, on est un peu là-dedans, d'essayer de vraiment re-questionner nos enseignements pour offrir des espaces de formation, pourquoi pas dans les cadres existants, mais qui re-questionnent fondamentalement et de façon interdisciplinaire. Et ça n'a pas été pensé comme ça. C'est ça qui est intéressant. Donc ça s'appelle les athécopoles ou archipels à Grenoble. J'avais rencontré des gens là-dedans, etc. C'est-à-dire que c'est des enseignants qui en ont marre de faire leur truc comme nous, ou des chercheurs qui n'ont plus de sens dans leur activité et qui disent... Bah, ils cherchent un lieu où trouver des copains, en gros, quoi. Voilà. Et donc, ils vont se réunir de façon extrêmement informelle, sans aucun enjeu de carrière. Et donc, moi, j'ai l'impression de revivre des choses, tu vois, des premières ébauches de l'interdisciplinarité, en fait, où il n'y avait pas d'enjeu. Et le seul plaisir de se retrouver, de discuter une heure et demie sur un truc, voilà. Et de ça va naître sans doute une formation, un peu dans cet esprit-là, de critiquer et des dynamiques technologiques et de numérisation comme solution immédiate à tout problème environnemental, sanitaire, par le rapport politique à la technique. Et ça, c'est sorti de ces discussions extrêmement informelles et du collectif qui s'est créé autour de ça. Voilà. Donc moi, je pense que... c'est dans ce sens-là que l'idée de l'esprit de l'IUP, pour moi, il est là, en fait. C'est-à-dire, tu vois, cette capacité de se dire, dans le collectif, dans l'informel, on peut arriver à apporter des choses qui... et où vont se rencontrer des besoins d'étudiants, des envies, et des enseignants qui ont envie de faire autrement. Voilà, donc
c'est mon optimisme du jour.
On est bientôt à la fin. Hein.
Ah, oui.
Bon, bah, du coup, je vais essayer de conclure. Ça va être un peu difficile, mais ce que je peux dire, c'est que effectivement, moi, je viens de ces formations très pluridisciplinaires, très interdisciplinaires, la discipline même de l'architecture, de l'aménagement et de l'urbanisme sont des disciplines qui sont récentes, on va dire. L'inscription de l'architecture et de l'urbanisme en tant que telle, c'est pas si vieux que ça. Et par conséquent, je suis choisie, quand on choisit de m'embaucher ou de me donner du travail, je suis choisie aussi pour mon expérience de l'interdisciplinarité, ma capacité à bavarder avec un entomologiste, à sensibiliser un médecin, à essayer de faire remonter leurs problèmes à un service d'urbanisme et à faire communiquer tout ce monde d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'on me choisit, c'est pour ça qu'on me demande de travailler et c'est pour ça qu'on me demande de partager des projets. Donc je pense qu'effectivement il y a aussi un avenir et il y a des moyens de développer des espaces de discussion avec entre notamment des chercheurs et des professionnels de plusieurs domaines et de plusieurs disciplines. Et je pense qu'effectivement, ça peut être tout aussi bien au bar qu'au travers de questionnements qu'on peut se poser ensemble et auxquels on peut répondre ensemble. Et ça peut être à la fois ludique et producteur et créateur de diversité et de curiosité.
Merci beaucoup, Julie, pour cette note d'optimisme. merci beaucoup à toutes les quatre. Je vais laisser Anne-Gaëlle, qui a pris plein de notes, faire une petite conclusion.
Ça vaudra ce que ça vaudra. Donc, avant de présenter Laurent Marceau, qui conclura vraiment la journée, puisque ce sera le dernier à parler. Donc pour essayer de revenir un peu sur tous ces échanges, hein, ce qui a pu être dit, finalement, l'interdisciplinarité, c'est une forme de situation de l'altérité, en fait. C'est qu'on a quand on enseigne, on est des enseignants qui sont issus de cultures disciplinaires différentes, on a des pratiques différentes. Donc comme dans toute situation d'altérité qui n'est pas propre au monde scientifique, en fait, il faut apprendre à travailler avec l'autre. En fait, on rejoint là des questions de coopération beaucoup plus larges que celles qui se posent dans le monde académique. Et en fait, ce qui est intéressant, et pourquoi cette acculturation se pose sur la question environnementale, donc là, je parle plutôt de mon point de vue situé, c'est que puisqu'on est sur l'environnement, et que l'environnement, c'est à la fois une réalité matérielle, parce que quand on a des cours de sciences environnementales, d'écologie, etc., l'environnement existe, il est là, mais en même temps, il y a des questions sociales qui se posent sur cette question environnementale. Et donc, si on veut parler d'environnement, on est obligé de mettre ensemble des disciplines qui, en fait, telles qu'elles se sont développées au sein de l'académie, se sont développées dans des couloirs institutionnels différents. Il aurait pu avoir une discipline sciences de l'environnemental, on ne sait pas, mais comme ça s'est historiquement développé dans des sections différentes, ça a imposé une pratique interdisciplinaire, en fait. Donc, voilà, ça permet peut-être juste d'avoir un petit recul sur pourquoi on parle d'interdisciplinarité, parce qu'on parle d'environnement, et pourquoi ça ne va pas forcément de soi. Et ce qui est intéressant quand on pratique l'interdisciplinarité, enfin, vous l'avez un petit peu montré, mais moi j'en parle plutôt aussi personnellement parce que j'ai fait mon master, ma dernière année d'études en interdisciplinarité aussi, parce que je venais de sciences politiques et j'ai étudié l'écologie. Et ben, on se rend compte en apprenant des cultures et des manières de connaître disciplinaires différentes qu'en fait notre propre discipline est elle-même située socialement dans ces manières de connaître et l'histoire de son développement. Et du coup, ça nous amène à une certaine modestie. Et puisqu'on est sur des questions environnementales, il faut bien, c'est très très important de justement situer d'où on parle et de qu'est-ce que ça a comme conséquence, parce que Jeff en parlait sur la question de la biodiversité. En fait, la biodiversité, c'est un concept à la fois autant scientifique que politique, et d'ailleurs tous les concepts scientifiques sont construits en fait, donc ça reste des outils qu'on a à notre disposition pour étudier certaines choses, mais ils ont une histoire de construction. Et donc, en fait, de se rendre compte que derrière le concept de biodiversité, si on étudie aussi socialement, il y a des intérêts aussi politiques derrière, etc., ça nous permet de comprendre la portée de ce mot. Donc, c'est très important pour avoir une posture d'humilité, en fait, scientifique. Et ce que je trouve aussi intéressant, plus spécifiquement sur la notion d'enseignement interdisciplinaire, c'est que finalement, il y avait plusieurs témoignages qui disaient que peut-être que vous aviez des parcours plutôt disciplinaires, et que votre pratique de l'interdisciplinarité, elle est passée par vos pratiques d'enseignement. Donc on voit bien que ces pratiques d'enseignement vous ont aussi apporté en tant que chercheur et chercheuse dans votre propre discipline. Et par exemple, moi qui côtoie plusieurs sociologues, des sociologues qui travaillent sur les questions environnementales, en prenant en partie au sérieux les questions matérielles environnementales, il n'y en a pas beaucoup dans le champ. Du coup, on voit bien les effets de ces pratiques aussi d'enseignants pour les enseignants-chercheurs, d'une part, et aussi pour les étudiants, parce que moi, je suis allée chercher cette formation de M2 parce que j'étais en sciences politiques et qu'on n'aborde pas du tout la matérialité de la question environnementale, en fait, pas du tout dans la discipline. Et donc, en fait, d'avoir des cours d'écologie, même si sur le moment, c'était difficile, dans la manière dont je pense mes questions maintenant, c'était totalement fondamental. Et je pense que sur toutes les questions environnementales, ça se pose, ces questions sociales et plutôt plus matérielles. Et finalement, pour rejoindre sur cette question de savoir situé, d'enseignement situé, les interventions sur les Suds nous ont bien montré qu'en fait, les cadres de la pratique interdisciplinaire et de son environnement, c'est aussi lié à la structure universitaire, à la manière dont on enseigne, à la manière dont chaque contexte on s'insère professionnellement, etc. Et c'est aussi lié à ces enjeux-là et pas intrinsèquement à des questions épistémologiques de la construction de notre science. Donc là, on a beaucoup abordé les limites et les difficultés de l'enseignement interdisciplinaire, notamment via les évolutions actuelles de l'université. Mais ça nous semble très important de resituer le fait que c'est contextualisé et qu'il faut un peu avoir une réflexion générale, ce que nous a permis cette table ronde. Et on va pousser ces questions-là aussi demain en voyant comment on peut coopérer entre scientifiques et entre autres secteurs, où il y a encore, on va retrouver des situations d'altérité, cette fois encore plus grandes, parce qu'on ne partage pas forcément les pratiques académiques qu'on peut partager avec son collègue écologue ou sociologue. Et finalement, sur les questions des Suds qui seront abordées le dernier jour. Donc, je passe tout de suite la parole à Laurent Marceau.